Le journal Marc Fauvel, bonjour.
Bonjour à tous. À la une ce matin, Jupiter chez le Saint-Père. Emmanuel Macron au Vatican ce matin, première rencontre avec le pape François. Cet après-midi, il se verra remettre le titre de chanoine d'honneur de Latran. Les défenseurs d'une laïcité stricte risquent de s'étrangler. Reportage à Rome dans un instant. Et dans 20 minutes, question justement sur les religions, la laïcité. Nicolas, avec votre invité.
La sociologue et présidente du Conseil des sages de la laïcité, installée par le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer. Dominique Schnapper, au micro de France Inter. Elle dialogue avec vous au 01 45 24 7000.
Dans ce journal également, un grand plongeon pour commencer l'été. Le couple exécutif Davis dans notre baromètre mensuel. Moins 8 points pour Emmanuel Macron, on verra pourquoi. Les petits patrons qui s'inquiètent du prélèvement de l'impôt à la source. En Espagne, le premier procès des bébés volés du franquisme. Et puis les Bleus, bien sûr, qui connaîtront ce soir leur adversaire en 8e de finale du Mondial. Sur le papier, tout est ouvert.
France Inter.
Chacun de ces gestes sera scruté, décortiqué, peut-être critiqué. C'est à 10h30 ce matin qu'Emmanuel Macron a rendez-vous avec le pape François, audience solennelle dans la grande bibliothèque du Vatican. Elle devrait durer au moins une demi-heure et le contenu en restera secret. Dans la foulée, le président se rendra à la basilique Saint-Jean de Latran à Rome, qui fut le siège de la papauté pendant plus d'un millénaire. C'est là qu'il recevra le titre de chanoine d'honneur au nom d'une tradition qui remonte à Henri IV et qui s'est poursuivie avec la République. Contrairement à son prédécesseur François Hollande, Emmanuel Macron a fait le choix d'aller chercher cette distinction. Mais l'Élysée se défend de faire la chasse aux catholiques. France Inter à Rome, Mathilde Imberti.
À la basilique Saint-Jean de Latran, le chanoine français Mgr Duval Arnoux ne cache pas sa joie.
Une très bonne nouvelle. Oui. Mes confrères en sont très très fiers. Oui.
Fiers de recevoir un président français plus de 10 ans après Nicolas Sarkozy et son discours polémique où il faisait l'éloge du curé face à l'instituteur. Pour Emmanuel Macron, rien de tel, freine d'emblée les conseillers de l'Élysée. La prise de possession du titre reviendra à un cérémonial sans rien de majestueux.
On fait ce qu'on appelle une paraliturgie, enfin une petite liturgie de la parole avec un texte lu, une prière, un chant. Pour Chirac, après, on a fait la visite de la basilique, la statue d'Henri IV, le cloître.
Et pour le président Sarkozy également, vous avez...
Alors non, Sarkozy, alors lui, il ne pensait qu'à son discours et il a fichu le camp tout de suite.
Emmanuel Macron se verra présenter la statue d'Henri IV, dépoussiérée pour l'occasion, cachée en temps normal derrière une porte soigneusement fermée. Henri IV le premier, reçu en 1604 le titre de chanoine d'honneur. Un échange de bons services, les chanoines du Latran l'avaient aidé à recevoir l'absolution du pape après sa conversion au catholicisme. Henri IV leur avait accordé les bénéfices d'une riche abbaye, celle de Clairac, de l'histoire ancienne remise à l'honneur aujourd'hui. Rome, Mathilde Imberti, France Inter.
Emmanuel Macron, bientôt chanoine donc, alors que plusieurs de ses prédécesseurs avaient refusé cet honneur au nom de la laïcité. Ce fut le cas de François Hollande, je vous le disais, mais aussi de Georges Pompidou et de François Mitterrand. Enfin, le chef de l'État devrait profiter de son audience pour inviter le pape François en France et sans doute à Marseille.
Et pendant que le président est au Vatican, les Français seraient-ils en train de perdre leur foi en l'exécutif?
La chute est impressionnante. Dans le dernier baromètre Odoxa pour France Inter, le président est en chute libre, moins 8 points, moins 5 pour son Premier ministre. Ils sont au plus bas depuis le début du quinquennat, sous l'effet de plusieurs polémiques récentes, mais aussi du passage annoncé aux 80 km/h sur les routes secondaires. La mesure entre en vigueur dimanche, mais elle est en train de plomber le couple exécutif. Analyse Estelle Schmitt.
Président des riches, exécutif de droite, l'image commence sérieusement à coller à Emmanuel Macron et Édouard Philippe, d'autant qu'à part les sympathisants de La République En Marche, ils ne séduisent que les électeurs du parti Les Républicains, 1 sur 2 selon le baromètre, rejet massif en revanche de la gauche, de l'extrême droite, mais également des Français issus des classes populaires qui se disent choqués par les propos d'Emmanuel Macron sur le pognon de dingue qui serait versé en aide sociale, par les polémiques sur la vaisselle de l'Élysée ou la piscine du fort de Brégançon, mais pas que. Odoxa a interrogé les Français sur la limitation à 80 km/h sur certaines départementales. Près des 3/4 se disent contre qu'ils fréquentent ou non ces routes. Même les électeurs de La République En Marche y sont majoritairement opposés. Et pour 73% des sondés, cette mesure est technocrate, décidée par des gens qui ne comprennent pas le quotidien des Français et elle ne sauvera pas de vie. Édouard Philippe s'est dit prêt à assumer l'impopularité de cette décision. Mais à Matignon, on reconnaît des erreurs de communication ces derniers mois. Fatigue et manque de vigilance, explique un conseiller.
Enquête Odoxa pour France Inter, l'Express et la presse régionale à découvrir en détail sur franceinter.fr. Et si l'Élysée redoute un nouveau motif de grogne ou d'inquiétude, il est tout trouvé avec le prélèvement de l'impôt à la source à partir de janvier prochain. On ne compte sont plus les professions ou les Français qui s'inquiètent. Dernière en date, les petits patrons. La CAPEB, la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment, signe une lettre ouverte. Elle demande des compensations car les artisans, appelés à percevoir l'impôt, ne sont pas des fiscalistes et que tout cela pourrait leur coûter cher, Delphine Simon.
Dans leur boîte aux lettres, les chefs d'entreprise des TPE-PME reçoivent depuis quelques jours les instructions de Bercy pour le prélèvement à la source. À partir du mois d'octobre, ils pourront commencer à éditer de nouvelles feuilles de paye avec la baisse des cotisations sociales, mais aussi le salaire après impôt. D'ores et déjà, ils anticipent des difficultés. Patrick Liebus, le président de la CAPEB.
On doit modifier nos fiches de paye en même temps. On doit avoir des lignes supplémentaires écrites d'un certain caractère. Et avec un certain lettrage. Donc, il faut quand même qu'on prenne contact avec nos sociétés d'informatique pour changer et modifier nos logiciels. Une affaire comme ça, ça nous coûte entre 300 à 500 euros minimum.
Du côté de Bercy, on le certifie. En cas d'erreur, les PME n'auront pas de pénalité à payer. Reste qu'entre la technique et la pratique, les patrons seront toujours les premiers interlocuteurs. Patrick Liebus.
Si jamais il y a un problème sur les payes faites par un comptable, le salarié, même fait par un comptable, vous savez à qui se plaint ? Chef d'entreprise, qui met une ligne verte où les salariés pourront appeler, mais dans ce cas-là, on les enverra directement vers eux et nous, on ne s'occupera de rien. Dans ce cas-là, ça sera le fisc qui gérera les problèmes avec le salarié.
Les besoins ont été identifiés à Bercy qui réfléchit à la mise en place d'un numéro de téléphone spécial à l'automne prochain.
Il sera présenté demain au Conseil des ministres, mais on connaît désormais les contours du futur service universel. Un mois minimum autour des 16 ans. Il sera fait autour des 16 ans, annonce ce matin le porte-parole du gouvernement. On y reviendra évidemment plus longuement dans nos prochaines éditions. La grève reprend ce soir à la SNCF. Attention, jusqu'à vendredi matin, 35 et 36e jour de cette grève par intermittence. Ce sont également les derniers avec ce mode de grève en attendant de savoir comment la CGT et Sudrail vont poursuivre le mouvement en juillet et en août.
8h07, voilà une nouvelle plutôt rassurante pour les élèves et leurs parents.
Il aura fallu 4 ans d'enquête menée dans des centaines d'établissements scolaires, mais le résultat est tombé. L'air que respirent les enfants à l'école est plutôt bon. En tout cas, il n'y a pas de dépassement des seuils réglementaires, Sandy Dauphin.
600 classes de primaire et de maternelle ont été analysées avec des capteurs d'air, des prélèvements de poussière, des dizaines de polluants recherchés, issus des meubles, des produits d'entretien, de la peinture ou encore du trafic routier.
On trouve l'ensemble des substances que l'on a mesurées, mais à des concentrations qui sont bien en deçà des valeurs limites réglementaires imposées dans le cadre de la surveillance des établissements recevant du public.
Pour Séverine Kirchner, coordinatrice scientifique de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur, le bilan est globalement satisfaisant. Mais avec des bémols.
Notamment les particules fines qui, dans les écoles, proviennent majoritairement de l'air extérieur. On a 90% des écoles qui sont au-dessus du seuil proposé par l'Organisation mondiale de la santé pour protéger les populations. Le deuxième point de vigilance, c'est ces substances qui sont semi-volatiles, donc dans l'air et dans les poussières, et qui sont des retardateurs de flammes, qui sont dans les revêtements plastiques, les pesticides ou qui sont dans les produits d'entretien. Et là, on va les retrouver aussi de manière très déployée dans les écoles, pour certaines, y compris des substances qui sont interdites depuis longtemps, comme le lindane, qui a été utilisé comme anti-poux ou comme traitement du bois, et qu'on retrouve encore parce que c'est un polluant rémanent.
Autre point noir, le plomb dans les peintures dans une école sur 10, et 41% des salles de classe sont trop confinées, l'air n'est pas suffisamment renouvelé, il faut aérer.
Les écologistes applaudissent, les bergers un peu moins. Le loup est en pleine expansion en France. Lui qui était revenu au début des années 90 en passant par l'Italie. On en compte aujourd'hui 430 car les petits louveteaux sont de plus en plus nombreux à voir le jour. Nelly Asséna.
En un an, ce sont 70 loups supplémentaires qui sont recensés en France. Une population qui a grimpé de 20% selon cette étude. Une étude très précise, basée sur des empreintes, des photographies, des dépouilles d'animaux aussi. 750 indices en tout sont analysés pendant un an. La tendance est claire, les loups sont plus nombreux et surtout, ils s'installent en France. En un an, il y a 30% de zones supplémentaires où le loup est présent en permanence. Alors c'est une bonne nouvelle pour les défenseurs de l'animal. Le plan loup du gouvernement vise un objectif de 500 loups en France en 2023. À partir de là, on estime en effet que l'espèce sera viable dans le pays. À cette vitesse, à la vitesse actuelle, on y sera sans problème. Alors évidemment, c'est une nouvelle beaucoup moins bien accueillie chez les éleveurs qui subissent les attaques du loup. 11 800 bêtes tuées en France en 2017, c'est 3 fois plus qu'il y a 10 ans.
Il est 8h10. Pour la première fois, l'Espagne va juger une affaire de bébés volés sous la dictature de Franco.
Combien sont-ils à avoir été ainsi enlevés à leurs parents, puis vendus à d'autres? Des dizaines de milliers sans doute. Aujourd'hui, un gynécologue comparaît à Madrid. Il y a 49 ans, il avait déclaré morte la petite Inès. laisse avant de la confier à une nouvelle famille. C'est elle, aujourd'hui, qui demande justice au nom de tous les autres. Mathieu de Taillac.
Les mères étaient soumises à une anesthésie générale pendant l'accouchement et quand elles se réveillaient, on leur disait que le bébé était mort-né. En réalité, des médecins sans scrupules livraient ces enfants volés à des couples stériles. Sous le franquisme, il s'agissait de faire éduquer par des familles bien pensantes les enfants des vaincus de la guerre civile, les rojos, les rouges. Ensuite, les voleurs de bébés cherchaient simplement à s'enrichir. Inès Madrigal, après avoir appris qu'elle avait été adoptée, a découvert que son acte de naissance a été falsifié par le docteur Vela. Ce gynécologue a nargué ses victimes en leur disant qu'elles ne retrouveraient jamais leurs parents biologiques. Qu'attend Inès Madrigal de ce procès ?
Dans l'idéal, Eduardo Vela dirait le nom de ma mère biologique, mais évidemment, il ne va pas le faire. Alors, une issue réaliste, favorable à notre cause, ce serait que le verdict condamne Eduardo Vela et établisse que la prescription ne s'applique pas à ce genre d'affaires.
Le premier procès des bébés volés risque en effet de faire jurisprudence. Si le juge conclut qu'il y a eu détention illégale de mineurs, le délit est imprescriptible. Le procureur réclame 11 ans de prison contre le docteur Vela. À 85 ans, il pourrait ne pas y entrer, mais les bébés volés, aujourd'hui, adultes en quête de justice, se sentent tout près d'une victoire morale. Madrid, Mathieu de Taillac, France Inter.
En Italie, finalement, c'est oui, les autorités ont permis cette nuit à un cargo danois qui transportait une centaine de migrants d'accoster en Sicile. Il patientait depuis 3 jours après avoir sauvé ces migrants de la noyade. C'est toujours non. En revanche, pour l'autre bateau, celui de l'ONG Lifeline qui transporte 234 migrants, voilà 5 jours qu'il attend un feu vert. L'Italie n'en veut pas dans ses ports, mais Malte pourrait finalement décider de l'accueillir. Toujours à l'étranger, l'Argentine, paralysée par une grève générale, plus de trains, plus d'avions, des écoles fermées et des rues quasi désertes dans la capitale Buenos Aires. Les syndicats dénoncent la politique de rigueur du gouvernement et les nouveaux sacrifices réclamés par le Fonds monétaire international en échange d'un nouveau prêt de 50 milliards de dollars.
8h12, la Coupe du Monde de football. Ce soir, les Bleus connaîtront leur adversaire en 8e de finale.
À l'issue de leur dernier match de poule face au Danemark, c'est à 16h. La France est déjà qualifiée, ce qui devrait permettre à Didier Deschamps de faire tourner l'effectif. Bonjour Xavier Monferrand.
Dobre Danemark, bonjour.
Les coiffeurs vont donc entrer en piste, hein, c'est le surnom qu'on donne aux remplaçants. Et des coiffeurs, disons qu'il y en a un certain nombre en ce moment chez les Bleus.
Eh oui, Marc, l'équipe de France est même une véritable clinique du cheveu. Coiffeur chez les Bleus, c'est même un privilège pour le Marseillais Florian Thauvin, plus gros consommateur de gel capillaire selon ses coéquipiers.
Ben, moi, ça me pose pas de problème parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient faire partie des coiffeurs, y compris dans cette pièce, donc moi, ça me dérange pas.
Et dans le football en 2018, le rapport des joueurs à leurs cheveux, c'est presque un sujet du bac philo. C'est plus important que leur rapport à l'argent, c'est plus intime, ça en dit plus. Il n'y a qu'à voir Benjamin Pavard, surnommé Jeff Tuche par ses coéquipiers en référence à ses bouclettes, ce qui l'amuse d'ailleurs très modérément. Avec ce match, avant ce match face à la France, le sélectionneur du Danemark a égratigné l'équipe de France et Paul Pogba, qui, je cite notre ami Ogue Oreille 2, jouera certainement contre nous avec des cheveux rouges et blancs. Eh bien, c'est raté.
Ah, par rapport à ma coupe de cheveux. Ah, il a de la chance, j'ai pas de couleur, sinon j'aurais fait rouge. Non, je rigole. Non, c'est rien. Comme je dis toujours, c'est le terrain qui parle. Après, c'est la mentalité, parce que on dirait que tu n'as pas le droit de faire une coupe de cheveux et aller jouer au foot après, donc. Je comprends pas trop.
Et le sélectionneur danois est prévenu, les coiffeurs veulent se rebiffer et ont bien l'intention de lui dégager les oreilles.
Alors, de quel coiffeur devront se méfier les joueurs danois, Xavier ?
Mais prenez Presnel Kimpembe, le défenseur du PSG, grand ami de Paul Pogba, ça ne va pas plaire à Ogue Oreille 2. Kimpembe, c'est un peu le spécialiste de la moumoute. Moumoute rouge, moumoute blonde. Il a même déjà expérimenté les spaghettis avant Neymar, c'est vous dire si on tient le spécialiste. Mais pour cette Coupe du Monde, Presnel Kimpembe a fait plutôt sobre, enfin façon de parler.
Tu as raccourci ta coupe de cheveux, plus trop de couleurs, vous êtes assez nombreux dans le groupe. Pourquoi tout simplement ?
Non, parce que c'est la Coupe du Monde et que pour moi, faut aller à la guerre. Donc, pour aller à la guerre, faut une petite coupe de militaire.
Voilà Marc, hein, la coupe militaire pour aller à la guerre face au Danemark et son méchant sélectionneur qui ne croit pas en l'équipe de France. Au fait, depuis, Ogue Oreille 2 s'est excusé en prétextant que ses propos n'avaient pas été compris par les journalistes, ça on connaît la ficelle. Avant de conclure, on pourrait presque penser que j'étais ivre à en croire les propos rapportés, il devait en tenir une sévère alors l'ami Ogue, mais le réveil risque d'être difficile car ses propos sont déjà sur les murs du vestiaire des Bleus et les ciseaux des coiffeurs, eux, sont bien aiguisés.
Xavier Monferrand, avant de vous quitter, Xavier, la question piège du matin, vous avez 20 secondes pour nous dire quel sera l'adversaire des Bleus en 8e de finale.
Allez, je vais dire l'Islande.
L'Islande, en fait, ça peut être tout le monde hein, dans le groupe. En face, l'Islande, le Nigeria, l'Argentine ou la Croatie. Un match nul permettrait aux Bleus de terminer premier de leur groupe, mais ça ne changerait pas grand-chose. Donc, à l'affiche, par ailleurs, on connaît désormais les deux premières affiches de ces huitièmes de finale. L'Uruguay face au Portugal et l'Espagne contre la Russie. Enfin, on termine avec un concours canin, mais... à l'envers, le chien le plus laid du monde a été élu hier en Californie. Une femelle bulldog baptisée Zaza. La langue pend jusqu'au sol, les yeux sont vitreux, les dents sont de travers et les griffes vernies en rose. Évidemment, sa maîtresse a une jolie phrase pour la, pour la décrire. Elle est si laide qu'elle en devient jolie.
Ah, c'est ma devise.
C'est pas la langue qui pend, Nicolas, ça va mieux.
Oui, oui, à mon propos, bien sûr. Merci Marc Fauvel.